Les gars du labo présentent les orages. Ce que nous réserve le réchauffement général de la surface de la Terre est entre autres une augmentation des fréquences des orages. Cette affirmation, tu l'as peut-être entendue, mais si tu es un peu curieux, tu peux te poser la question, mais quel est le rapport entre le réchauffement climatique et les orages ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qu'est un orage et dans quelles conditions cet événement climatique se forme-t-il. Alors, les orages sont des phénomènes climatiques naturels qui découlent de la formation d'un nuage appelé cumulonimbus. Ce type de nuage se forme dans des conditions de température bien précises, à savoir un air chaud au niveau du sol et un air froid en altitude. Le processus de formation commence à partir du moment où l'air chaud monte en altitude, puis se fait refroidir à plusieurs kilomètres d'altitude suffisamment jusqu'à ce que l'air chaud condense, cédant donc son humidité contenue à l'atmosphère. Le phénomène physique de condensation est visible tous les jours dans nos vies, comme l'exemple de la buée sur les fenêtres l'hiver. Cette condensation est le principal phénomène qui engendre la formation principale d'un nuage, au sens plus classique du mot. C'est bien une condensation rapide et massive qui va différencier le cumulus et le nuage. À ce stade-là, le jeune cumulus est visible à l'œil nu. Il se distingue par une couleur foncée, qui se traduit par une forte densité d'eau. En moyenne, un cumulonimbus fait entre 9 et 15 km de hauteur et 5 à 15 km de longueur. En altitude se forment des cristaux de glace sous moins 56 degrés. C'est à partir de ce moment-là que la foudre va commencer à se générer, par de nombreux frottements de gouttelettes d'eau et de cristaux de glace brassés à haute vitesse dans le cumulonimbus. Ces agitations vont faire monter en potentiel l'ensemble de la même manière que les frottements entre ta peau et un pull synthétique, que l'on appelle électricité statique. La différence est que concernant ton pull, la tension électrique sera de l'ordre de quelques volts, quand un cumulonimbus peut aller bien plus haut, comme on le verra par la suite. Le cumulonimbus est chargé positivement en hauteur quand la surface de la Terre est négativement chargée. La foudre se comporte donc exactement de la même manière qu'une pile. Les arcs électriques, que l'on appelle communément éclairs, se produisent majoritairement à l'intérieur du cumulus, mais ce qui provoque des dégâts sont les rares de ceux qui touchent le sol. Mais qu'il est dur de prévoir précisément un orage, c'est probablement ce que l'on pourrait entendre de la part des salariés se tirant les cheveux si l'on parcourait les couloirs de Météo France. En effet, c'est un phénomène encore mal compris, à tel point que l'œil nu et l'intuition naturelle est encore le meilleur moyen de prévoir un orage. Ce n'est pas très efficace car malheureusement à ce stade-là, tu n'as plus que quelques minutes pour t'organiser. La formation d'un nuage dépend d'énormément de paramètres, comme le type de végétation, le relief, l'humidité du sol, la température, etc. Il est impossible de contrôler tous ces paramètres, et je ne t'ai cité que les paramètres connus les plus significatifs. C'est donc pour cela que les cartes météo ne donnent de prévisions qu'à l'échelle du département, sous forme de vigilance rouge, jaune ou orange. Ce phénomène si commun est d'une violence inouïe à ses points d'impact. On peut entre autres y enregistrer des températures atteignant les 30 000 degrés, des tensions atteignant les 100 millions de volts. Cela génère une onde de choc due à la dilatation de l'air qui émet un son de 130 décibels, ce qui équivaut au bruit d'un avion au décollage. Les orages ne sont clairement pas à négliger. Les dégâts sont multiples dans tous les secteurs, bâtiments, énergie, environnemental. On peut citer les incendies, les surtensions dues au courant capable de remonter des prises de terre, l'éclatement des matériaux car, en effet, au point d'impact, nos 30 000 degrés sont capables de vaporiser instantanément toute eau contenue dans n'importe quel matériau. Car oui, même une pierre à l'abri de l'eau depuis des centaines d'années peut sembler totalement dépourvue de cette dernière, mais on estime tout de même que cette composition matière est de l'ordre de 10 à 20% d'eau. Cette eau, donc, en se vaporisant à l'intérieur du matériau, occupe plus de place mais se trouve empêchée, encastrée. La pression va devenir tellement forte que la vapeur d'eau sera capable d'exploser un matériau aussi résistant que l'acier. Ce phénomène est par exemple capable de calciner un arbre multicentenaire. Évidemment, l'homme n'est pas épargné. Si ce n'est pas la mort que cause la foudre, il peut y avoir des lésions oculaires si l'on regarde trop directement et de trop près la foudre. Des brûlures locales qui nécessitent obligatoirement des amputations. Voilà pour la formation et les conséquences de la foudre, mais bien souvent, ce phénomène est accompagné par des vents qui peuvent atteindre les 140 km/h, qui, plus rarement, génèrent des tornades. Il peut y avoir de la grêle, qui n'est ni plus ni moins que des cristaux de glace dont nous parlions qui n'ont pas eu le temps de se refroidir par leur vitesse excessive. Des crues intenses sont parfois constatées, et elles sont de moins en moins rares dans les sols artificialisés qui ne sont plus capables d'assimiler les quelques 50 à 100 litres d'eau par mètre carré, que l'orage est capable de déverser en seulement quelques dizaines de minutes. Tous ces dégâts ont des coûts de l'ordre du milliard chaque année rien qu'en France. Vous me direz peut-être que les assurances sont les seules concernées par le problème, mais ce serait sous-estimer les charges mensuelles importantes que payent les Français. Les assureurs ne se privent évidemment pas de mécaniquement répercuter leurs dépenses sur leurs clients. Ce sont des entreprises privées qui ne font évidemment pas la charité. Mais alors, en quoi seront-ils plus nombreux ? Aujourd'hui, il est très clair que le phénomène sera de plus en plus important à cause du réchauffement climatique, car en effet, on a vu que les orages dépendent directement de la température du sol. La corrélation se vérifie en pratique, toujours en France. Si l'on prend une année globalement chaude, comme 2022, on compte pas moins de 560 000 impacts de foudre qui se concentrent durant la saison dite des foudres, qui s'étend de juin à août. Par souci de précision, il est admis d'ajouter le mois de septembre pour la Corse et le Sud-Est, qui reçoivent en moyenne deux fois plus d'impacts de foudre que le reste du pays. Par comparaison, si l'on prend une année relativement froide dans l'ensemble comme 2012, qui n'a enregistré que 335 000 impacts de foudre, soit presque moitié moins. En 2022, en France, il a fait 2,5 degrés plus chaud en moyenne qu'en 2012. Ce qui veut dire qu'une augmentation de la température moyenne de l'ordre de 2,5 degrés peut impliquer une multiplication par deux des impacts de foudre. N'est-il donc pas à exclure qu'en 2050, la foudre soit capable de s'abattre en France métropolitaine dans de l'ordre du million d'impacts nuage-sol, avec ses lots de dégâts comptés en milliards d'euros pour le pays? Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que l'on estime que pour un air qui prend 1 degré de plus seulement, cet air peut contenir 7% d'humidité supplémentaire. Il est donc clair que les orages en 2050 causeront des crues plus importantes, en plus d'être plus fréquents par l'augmentation moyenne des températures. Voilà, les orages n'ont plus de secret pour toi. Donc en conclusion, l'orage est un phénomène naturel mal expliqué par les scientifiques et difficilement anticipable. Nous avons vu que les orages, à cause du réchauffement climatique, ont le vent en poupe. Ici, je n'ai parlé que des orages, mais ce n'est qu'un des très nombreux problèmes que nous devrions faire face si l'endiguement du réchauffement climatique n'est pas suffisamment efficace. Autrement, il faudra nécessairement s'adapter collectivement en 2050 à une foudre plus régulière, plus puissante. Tout ceci aura un coût qui ne sera pas utilisé pour financer la transition écologique. Autrement dit, il est plus judicieux aujourd'hui d'investir dans la transition écologique plutôt que de ne rien faire et de payer les conséquences de cette dernière. Les décideurs pensent qu'à court terme quand il faut penser long. Exerçons notre rôle de citoyen pour rappeler à nos élus que financer des politiques résilientes est l'investissement le plus rentable à faire aujourd'hui.
Du Labo est un média amateur d'étudiants en sciences physiques et économiques. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, les gars du Labo.